Bonjour frères et sœurs, c'est curieux, hein, tous les dimanches il y a toujours plus ou moins, même plus que moins, des liens entre tout ce qui est dit et la suite, quoi. Comment commencer? J'ai un cerveau, vous aussi. On a un bon système, un truc, un outil que Dieu nous a donné et qui est remarquable. Il fonctionne bien, en général. Quelquefois, quand on est très malade et nous venons de perdre dans notre famille, enfin moi, un beau-frère, Marie-France aussi, un beau-frère, Alzheimer, et on voit ce que c'est quand le cerveau ne fonctionne pas bien, physiologiquement. Hein. Mais notre cerveau nous permet de réfléchir, de méditer et de faire des choix. Je crois qu'il y a ici des gens qui sont très capables et qui sont même profs à l'université dans le domaine du fonctionnement de ce machin-là que nous avons. Moi, je voudrais aussi vous parler d'une circonstance. Vous vous souvenez, Jésus se pose des questions et il demande à ses disciples, dites, qu'est-ce qu'on dit à mon sujet? Ah ben, il y en a qui disent que tu es un prophète, il y en a qui disent que tu es Élie qui est de retour, etc. Et vous, qu'est-ce que vous. Et pour vous, qui je suis? Et vous avez la réaction d'un enfant spontané, celle de Pierre, qui est vraiment quelqu'un qui a encore un cœur d'enfant, mais qui parfois est un peu trop spontané et qui peut dire des choses bien et puis des choses moins bien. Mais là, tout d'un coup, il sort quelque chose et il dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de lui répondre, tu es heureux, fils de Jonas. Hein, c'est ça. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Essayez de comprendre que tout ce que nous avons dit, tout ce qu'Emmanuel a dit, tout ce qui a dit et été dit par Pascal et par d'autres, finalement, ça va dans le sens que je voudrais que je voudrais vous transmettre. Que nous avons un cerveau qui fonctionne bien, mais que parfois on peut se laisser, disons, dominer par son cerveau, par notre façon dont il a été façonné, par l'éducation que nos parents nous ont donnée, mais également par les hérédités que nous avons. Et il fonctionne bien, et il pourrait y avoir un problème, c'est qu'on se confie en notre cerveau. On puisse se confier dans nos capacités de réflexion et de déduction. On peut finalement le mettre au premier plan. Et lorsque l'apôtre Pierre répond à Jésus, ça sort de son cœur, il n'a pas eu le temps de réfléchir, il a dit ce qu'il avait au fond du cœur. Il a compris quelque chose. C'est ça le problème de la France, mais c'est ça le problème de tous les gens bien, bien pensants et qui ont un bon cerveau, ou qui pensent avoir un bon cerveau. Ils le mettent en avant et ils n'ont plus cette spontanéité dont on a parlé, dont Emmanuel a parlé, dont Pascal a parlé, qui fait que, voilà, non, nous on sait qu'il est vraiment le Fils du Dieu vivant. C'est celui qui vient nous libérer de nos péchés. C'est lui qui. Enfin bref, vous voyez. Alors, pourquoi je pense à ça? J'y pense depuis un certain temps. Et puis, mardi, nous avons eu l'étude biblique. Et dans l'étude biblique, il y avait un verset, parmi tant d'autres, que Pascal nous a évoqué, qui était celui-ci. La parole annoncée ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Oui, la parole annoncée ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et donc, Jill a, à un moment donné, évoqué l'inverse, hein, c'est-à-dire l'autre verset qui nous parle de la foi, comment ça marche. Et il nous est dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. L'apôtre Paul, hein, vous le savez bien, dans Romains au chapitre 10 et au verset 17, il signale que lorsqu'on entend une prédication, lorsqu'on entend un témoignage, qui vient d'une chrétienne ou d'un chrétien, il se passe quelque chose dans le cœur de l'auditeur. un intérêt ténu. L'auditeur n'est pas chrétien, hein, pas forcément. Surtout, justement, ça se voit avec un non-chrétien, une qui n'est pas chrétienne. Il y a un intérêt ténu, imperceptible. La personne s'approche et elle dit, en gros, elle dit ça, elle ne le dit pas de cette façon-là, mais je vais vous le traduire comme ça. Dis-toi, je t'ai entendu parler de quelque chose que j'ai jamais entendu. Dites-moi en plus à ce sujet. Dis-moi quelque chose de plus à ce sujet. Je n'ai jamais entendu les choses comme ce que vous avez dit là, et j'ai l'impression que ce que vous dites est vrai, et en même temps, je ne comprends pas pourquoi c'est vrai. Et pourtant, je sens que c'est vrai. Vous voyez, ce genre de choses, je vous ai dû certainement l'apercevoir parfois lorsque vous témoignez, il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui ne comprend pas. Il comprend qu'il ne comprend pas, comme Jean Gabin. Et en même temps, il se dit, mais c'est... Ah. Moi, je me souviens, au travail, il y en avait deux qui étaient là en train de se parler. J'étais en train, moi, à côté, et je venais juste de leur répondre. Et puis, le gars, il disait, mais ça m'enquiquine. Enfin, il avait utilisé un autre terme. Ça m'enquiquine, ce qu'il dit. Mais ça m'enquiquine. Parce que ça l'enquiquinait, parce que il pouvait pas refuser ce que je venais de dire. Et en même temps, il avait du mal à l'approuver. Et il était entre les deux, voyez. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On va s'expliquer un peu plus après. Ce qu'on entend, je pensais un moment que cela voulait dire que mon intelligence comprend. Et Paul, pas Paul Cradock, ni Paul l'apôtre Paul, non, un autre Paul que j'ai connu, qui est un ami, hein, et qui m'a répondu. Il m'a dit, absolument pas Étienne, tu fais une erreur, une grosse erreur. Elle est dangereuse, ton erreur. La foi n'est pas basée sur la compréhension. Il n'est pas dit, la foi vient de ce qu'on comprend. Il est dit, la foi vient de ce que l'on entend. C'est pas la même chose. Ça, c'est ce qui est dit. C'est un véritable problème pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, qui sont surtout, en Occident, des pseudo-scientifiques. Ils disent quoi? Vous savez bien? Ils disent, tant que je ne comprends pas, je n'aurai pas la foi. Chez les disciples qui ont entendu la question de Jésus, il y en a qui ont dit, bah, il y en a qui disent que c'est prophète, c'est Élie qui est revenu, voilà. Oui, mais et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et l'apôtre Pierre dit bien, non. Ce qu'il dit en fait, si je ne déduis pas, je ne fais pas de compréhension, je ne fais pas marcher mon cerveau, ce que je comprends, c'est que je n'ai pas compris, mais qu'il y a une chose que j'ai compris, c'est que tu es le Fils du Dieu vivant. Je ne veux pas me laisser dominer par mon cerveau. La parole annoncée ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire, veut dire une chose, c'est que le cerveau fonctionne, et après on dit, j'ai la preuve que Dieu existe. Hein, un peu comme si on était au-dessus. C'est ça qui se passe en Occident. C'est ça qui se passe ailleurs. Toujours le cerveau qui fonctionne bien, mais qui est dominant. C'est exactement l'attitude qu'on trouve définie dans le livre des Hébreux, au chapitre 4 et au verset 2, que nous avions médité mardi. La parole annoncée ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. On entend la parole, et la parole, elle est là. Et on commence à réfléchir, comme dit Emmanuel. Et là, pouf, oh non. Mon cerveau, ma façon, ma capacité de déduire me permet de dire que non, c'est pas bon. Voilà. Alors on va prendre un exemple positif. Parce que c'est pas rigolo quand même, les gens qui refusent la foi, qui refusent l'évangile, mais il y en a qui ont accepté l'évangile. Vous avez accepté l'évangile. L'exemple, c'est Paul qui fait une admirable présentation de l'évangile à Athènes. C'est une ville prétendument libre, Athènes, de toute contrainte. Une ville où les gens étaient fiers de dire qu'ils étaient ouverts à toute forme de pensée. Une ville qui prétendait être le centre du monde de la liberté. de l'égalité et de la fraternité. Dans cette ville, Paul fait une admirable présentation. Il veut provoquer chez eux un intérêt pour Jésus, et il ne va pas utiliser l'argumentaire qu'il utiliserait pour un peuple hébraïque ou un peuple oriental. Il utilise ses capacités universitaires pour lui qui avait fait des études à Tarse, en Cilicie, pour présenter l'Évangile. Il utilise les outils qui sont là pour saisir leur cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Vous le savez. Il se fait jeter dehors. Pourquoi? Parce que ces Grecs, fiers de leur sagesse devant la parole annoncée par Paul, ne se sont pas laissés attirer. Ils n'ont pas dit, comme on a vu juste avant, « J'ai jamais entendu ce que vous avez dit. » Enfin, si, ils l'ont dit. Hein, si, ils ont dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce discoureur? Venez, venez, tu vas venir au congrès, à la salle du congrès, et là, à la salle du congrès, tu vas t'expliquer. » Mais après avoir entendu l'explication de Paul, ils n'ont pas dit « Je n'ai jamais entendu cela, et j'ai l'impression que ce que vous dites, c'est quand même vrai. Mais en même temps, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Alors, que je sens que c'est vrai. Alors, il faut qu'on creuse plus. » Il n'y en a pratiquement pas qui ont dit « Oui, on va faire ça. » Dans cette ville d'Athènes, Paul n'a pas eu beaucoup de succès. Parce que c'était une ville où on ne trouva pas de la foi chez ceux qui entendirent la parole, chez les auditeurs rassemblés. Ce type de personnes ne voulaient bien entendre que lorsqu'ils avaient bien compris. Leur foi était placée dans leur propre intelligence. Vous remarquez qu'ils étaient néanmoins idolâtres. Ils se disaient libres, sans contrainte. Mais en fait, ils étaient tellement envahis de statues et de divinités que même Paul, qui pourtant était patient, en était agacé. Un exemple de nos pays occidentaux. Il y a bien le responsable du congrès, qui pourtant n'était pas un imbécile. Il avait l'habitude d'entendre des bonimenteurs. Le responsable du congrès, lui, nommé Denis, eh bien, et puis quelques autres, et puis Damaris aussi, hein, mais à part eux, il n'y a personne. Il y a eu, à notre connaissance, il n'y a pas eu de création d'une église à Athènes, comme ce qui s'est passé ailleurs. La parole annoncée ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Maintenant, prenons un exemple négatif. Quand je parlais de l'exemple positif, c'était celui de Denis, l'aéropagite, des gens qui étaient avec lui, qui ont été touchés par ce que l'avait dit l'apôtre Paul, et puis Damaris. Hein. Ça, c'est l'exemple positif. Puis il y a un exemple négatif. Cet exemple négatif va me permettre de vous donner le titre que je donne à mon message. Hein. C'est une expression, ça va vous paraître un peu curieux, mais c'est une expression bizarre. Hein. Et j'ai essayé de trouver d'où venait cette expression. Hein. On a des expressions, hein, je sais pas moi, je vais vous dire quelque chose de bête peut-être, mais elle me vient à l'idée. On dirait qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Vous savez ce que c'est que cette expression? C'est une expression catholique. Hein, c'est l'hostie, puis comme Dieu est dans l'hostie, pouf, sans confession, voilà. Mais là, c'est un autre terme. Et celui-là, je ne l'ai pas trouvé sur Internet, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé simplement dans la parole de Dieu. Ce terme, qui est le titre du message, c'est « ça crève les yeux ». Ça crève les yeux. Vous connaissez cette expression, hein? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous, cette expression? Hein, c'est évident, hein, voilà, ça crève les yeux. C'est bizarre quand même, parce que si c'est évident, et si vous avez les yeux crevés, vous n'allez rien voir. Enfin, il y a quelque chose de curieux dans cette expression. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est évident, voyons. Tu ne vois pas l'évidence. L'évidence est tellement forte que c'est comme si elle pouvait te crever les yeux et tu ne la vois pas. Eh bien, on trouve cette expression dans la Bible. Alors, vous vous souvenez d'une période particulièrement terrible de la. Enfin, il y a eu plein des situations terribles dans la parole de Dieu, mais en moins 1350 avant Jésus-Christ, en gros, hein, excusez-moi les approximations, le peuple d'Israël sort de l'Égypte sous la conduite de Moïse, probablement lors du règne de Amenophis II. Rapidement, ce peuple, chassé par les Égyptiens, après les 10 plaies d'Égypte, hein, passe au travers de la mer Rouge d'une manière miraculeuse. Et à ce sujet, je vous propose de regarder sur Google Earth, hein, l'informatique, c'est intéressant de temps en temps. Vous regarderez de temps en temps. Vous regarderez dans Google Earth, à l'endroit, il s'appelle Nouweiba, à l'est du Sinaï, et vous verrez des photos, des vestiges, des chars, des pharaons, du pharaon englouti, hein, dans la mer Rouge. Hein, il y a des photos. Vous pouvez cliquer sur Google Earth, puis il y a des endroits où vous avez des photos possibles à cliquer, vous cliquez dessus, et vous verrez qu'il y a quand même des indices troublants. Du côté de Nouweiba. Il y a trop d'indices à cet endroit pour ne pas se poser de questions. Même si on est incrédule sur la véracité du passage, de l'histoire du passage de la mer Rouge, ça crève les yeux. Nous, en tant que chrétiens, on peut utiliser ça et dire, ouais, tu crois que ça passe, c'est pas vrai? Va cliquer sur Google Earth et puis tu verras. Ça crève les yeux. Puis vous avez une opinion inverse. Vous avez laquelle, hein? Vous avez une autre opinion qui peut être, mais enfin, ça crève les yeux. Tout un peuple qui passe entre deux murailles d'eau, au fond de la mer, pour ressortir de l'autre côté, sur l'autre rive, ça dépasse les lois de la physique. C'est impossible. Et ça crève les yeux. Alors vous avez deux argumentations possibles. Deux opinions complètement différentes, et chacun dit, mais enfin, ça crève les yeux. Et chacun est absolument certain que c'est lui qui a raison. Le même problème existe, vous l'avez déjà constaté, lorsque vous dites que Dieu existe. Vous dites que Dieu existe. C'est évident, ça crève les yeux. Et c'est vrai que ça crève les yeux, la nature, etc. Enfin, tout fait que ça crève les yeux. Mais pourtant, vous savez très bien qu'il y a des gens qui vous disent, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces horreurs, et toutes ces guerres. C'est que s'il existait, il ne permettrait pas ces horreurs. Donc Dieu n'existe pas. C'est évident. Ça crève les yeux. Nous nous trouvons alors dans une surenchère d'argumentation, où chacun veut démontrer à l'autre ce qui lui crève les yeux. C'est une situation sans issue. Elle est basée sur la compréhension. Chacun y met son petit cerveau. Et tout le monde a un bon cerveau. Chacun compris de son côté et tient à ce qu'il a compris. Je vous donne un autre exemple. On a ce problème de situation dans le livre des Nombres. Et il n'est pas beau à voir. Au chapitre 13 et au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre le peuple, contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Nous avons vu des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, éleva la voix, poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Vous avez deux personnes à qui ça crève les yeux. Enfin, deux types de personnes à qui ça crève les yeux. Caleb, on va gagner. Donc pour Caleb, ça crève les yeux. Le pays est déjà vaincu. Il n'est pas encore, mais c'est comme si c'était fait. Et pour les 11 autres, probablement que Josué s'interroge pendant la nuit, hein, mais pour les 11 autres à ce stade-là, hein, ça crève les yeux, c'est la défaite assurée si on attaque le pays. Nous nous trouvons encore dans une surenchère d'argumentation où chacun veut démontrer à l'autre ce qui lui crève les yeux. C'est une situation sans issue. Et vous remarquez deux phrases. Hein? Caleb qui dit « Nous y serons vainqueurs ». Caleb, il dit ça, il dit pas grand-chose. Il dit « Nous y serons vainqueurs ». Et les autres « Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles ». Bien sûr, ici, nous, les chrétiens bien-pensants, on peut être très opportuniste et dire « Oh, moi, j'aurais fait comme Caleb ». Enfin, mettez-vous dans la situation ici s'y sont trouvés. C'est inquiétant. Moi, je me demande si j'aurais pas fait partie des 11. Hein. Quelle différence est entre Caleb et les autres? Ceci. Lisons le livre des Nombres au chapitre 13 et au verset 2. Il nous est dit au verset 2 « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, virgule, que je donne aux enfants d'Israël. » Et qui dit cela? Dieu. Merci José. Le Dieu qui a arraché à main forte et à bras étendus le peuple d'Israël de la puissance d'Égypte, c'est pas il y a 2 siècles, hein, c'est il y a 3 mois, hein, qui a entendu cela? Les 12 hommes prévus pour explorer, ils ont entendu Dieu dire à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, virgule, que je donne aux enfants d'Israël, point. Dieu parle quand même, bon, c'est pas n'importe qui. Hein, bon. Et chez ces 12 hommes, c'était des gens importants. C'était des gens qui avaient quand même une responsabilité et qui étaient quand même pas trop... Disons, on pouvait leur faire confiance, quoi. Hein. Et puis voilà. Ils avaient vu la puissance de Dieu. Ils avaient tous entendu la parole de Dieu suivante, « Je donne ce pays aux enfants d'Israël. » La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, c'est terrible de critiquer ces 11, parce que je vous dis, j'ai l'impression que j'aurais peut-être été de ces 11-là, mais on sent la différence. On a un cerveau, il fonctionne bien, mais parfois, il prend le dessus sur Dieu. Et dans Hébreux 4, verset 2, la parole annoncée ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Quelle différence y a-t-il entre Caleb et les autres? Caleb entend la parole de Dieu et ensuite il voit ce qui se passe. Les 11 voient ce qui se passe et ils entendent ensuite la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de répéter, hein, vous avez compris. C'est, voilà, il y a une priorité qui est donnée. Caleb, le prototype du chrétien, qui place d'abord sa foi en Dieu. Il n'était pas comme moi. Quand Paul me dit cela, je comprenais... Enfin, j'ai mis du mal à comprendre quand même, non. Ce n'est pas comme ça tout de suite que j'ai compris que je ne comprenais pas. La foi vient de ce qu'on entend. Elle ne vient pas de ce qu'on comprend. Les 11, eux, sont le prototype des pseudo-scientifiques qui placent d'abord leur analyse comme étant l'absolu. On n'est pas obligé d'être tout de suite saisi par la foi en Dieu. On n'est pas obligé. Dieu nous a créés pour réfléchir sur ce qu'il a dit et sur ce qui se passe. Franchement, vous croyez que nous n'aurions pas été tentés d'être comme les 11? Quand même. Josué de la tribu de Juda a dû passer une mauvaise nuit. Déjà, il y avait des cris et des pleurs partout et il a réfléchi au comportement de Caleb. Il a mûrement réfléchi et a fait passer la parole de Dieu. Il a fait passer Dieu avant son analyse. Le lendemain, c'est lui qui prend la tête du témoignage. Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Ça finit mal pour les 10 autres qui moururent instantanément à cause de la manipulation journalistique qu'ils avaient insidieusement introduite dans l'esprit du peuple. Manipulation journalistique, je dis bien. Ils moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel, Nombre 14, verset 37. Vous connaissez la suite. Finalement, Dieu les condamne à être tous 40 ans dans le désert, et donc avec Moïse, Aaron, Josué, Caleb, Myriam et les autres fidèles, qui ont subi les conséquences de la désobéissance de l'ensemble du peuple. Toujours obéissant, non, toujours désobéissant. Ce peuple était toujours désobéissant. Pas comme nous, hein. Pas comme moi. Nous, nous sommes toujours obéissants, jamais un murmure, jamais une hésitation. C'est alors que j'arrive à l'exemple suivant. C'est encore pire. Je vais d'abord vous rappeler la différence entre la foi et la compréhension. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et le contraire, la pseudo-science vient de ce que l'on comprend, et ce que l'on comprend vient de notre petit cerveau. Je veux aussi vous rappeler cela parce qu'il y a encore un autre paramètre qui rentre en ligne de compte, qui vient perturber notre esprit et le mien. Ça m'arrive, j'avoue. J'appellerais ça les intentions inavouables et inavouées. En gros, l'intention inavouable, inavouée, c'est de ne pas révéler les véritables motivations de nos choix. On peut dire par exemple, je fais ceci, cela pour le Seigneur. Et est-ce que c'est vraiment pour le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment par amour pour Dieu? Exemple, Nombre chapitre 16 et verset 9. Dans Nombre chapitre 16 et verset 9, c'est Moïse qui regarde Dathan, Abiram, Corée et On, qui ont entraîné 250 personnes avec eux, et des plus importants, pour attaquer l'autorité de Moïse et Aaron. Et Moïse répond, et là on a, si vous voulez, dans la réponse de Moïse, on voit l'intention inavouable de ces gens-là. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, hein, c'est Nombre 16-29, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, ce qui était un prestige, hein, ils étaient les plus importants. Ils n'étaient pas à la tête, mais ils étaient quand même les plus importants. Est-ce trop peu que Dieu vous ait employé au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'Assemblée pour la servir, pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voudriez en plus le sacerdoce. Ils avaient déjà une position d'honneur, mais ils voulaient l'honneur suprême de Moïse et Aaron. Et ils n'étaient pas d'accord. C'était leur intention profonde. Je vous dis ça parce que eux, ils ont le cerveau qui fonctionne bien. Enfin, oui, enfin, ça tourne, quoi. Vous avez compris, je vous parle de la révolte donc de Corée, Dathan, Abiram et On. Ces hommes manipulèrent 250 responsables. Verset 2 du chapitre 16. Ils ont présenté Moïse et Aaron comme des tyrans. Vous relirez, ce sont des tyrans. Et ils ont présenté les 250 hommes responsables comme des démocrates, tout à fait capables et tout à fait compétents pour diriger Israël tout aussi bien que Moïse et Aaron. En fait, le Lévite Corée et les Rubénites Dathan, Abiram et On semblaient vouloir instaurer une démocratie participative. Mais les véritables motivations de leur choix, c'était qu'ils étaient jaloux de l'intérêt de Dieu que Dieu portait pour Moïse et Aaron. Au verset 3, on le voit bien. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Oui, des bons démocrates. Ils ont l'air d'être totalement intègres, ces gens-là. Ils veulent partager le pouvoir et s'insurgent contre un pouvoir théocratique. Moïse, qui représente Dieu pour le peuple, et Aaron, le délégué de Moïse, le grand prêtre de Dieu. Franchement, aujourd'hui, dans la mentalité de notre époque, qui avait raison? Moïse et Aaron ou ces cinq personnes? Ils ont l'air d'être totalement intègres. Mais en fait, ils ne le sont pas. Ils vont, à ce stade de leur révolte, sortir leur botte magique. leur baguette magique. Ils attaquent un seul homme d'abord, Moïse, et lui dirent: Tu nous as promis un pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas vrai. Aucune agriculture dans le coin. Aucune. Ça crève les yeux. Tu nous as menti. Et ils manipulent l'opinion, font croire qu'en Égypte c'était le paradis, parce qu'ils disent, hein, oh, bon, c'était le lait et le miel en Égypte. Je ne sais pas si vous imaginez la manipulation. Ils disent en même temps qu'ils ne sont en rien responsables de l'échec des 12 explorateurs, parce que l'histoire des 12 explorateurs qui sont partis en Canaan, c'était juste un petit peu avant. Ils ne disent rien là-dessus. Il faut rester maintenant 40 ans dans le désert, mais c'est la faute de Moïse. Ils sont finalement de fins politiciens, ces hommes-là. Je pense qu'au XXIe siècle, ils auraient trouvé du travail et n'auraient sûrement pas pointé à Pôle emploi. Lisons le verset 13, chapitre 16. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel? On parle de l'Égypte, hein. Pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens, point d'interrogation? Nous ne montrons pas. Vous voyez, ça crève les yeux, cette expression, a priori, si vous trouvez ailleurs l'origine de cette expression, je crois que vous aurez du mal. Il me semble que c'est bien là. Ça crève les yeux. Tu nous as menti, etc. Je vous ai fait lire ce verset parce que ceux qui nous disent « ça crève les yeux » ne sont pas forcément honnêtes avec nous, surtout aujourd'hui, surtout dans les infos que nous avons, hein. Il est très facile de modifier la réalité imperceptiblement, hein, pas entièrement la tordre et faire l'inverse, mais juste la modifier un peu, hein, et ainsi orienter notre jugement. La parole de Dieu, elle, ne manipule pas. Elle va même parfois nous dire crûment ce que nous sommes. Et même lorsque cette parole nous dit « tu es pécheur », ça fait pas plaisir, hein. Ça va provoquer deux réactions. La première, la positive, c'est « j'ai jamais entendu qu'on me parle comme ça. Les choses que vous m'avez dites là, mais j'ai l'impression que ce que vous dites, c'est vrai. Mais en même temps, je ne comprends pas pourquoi vous me dites que je suis pécheur. Mais je n'ai pas l'impression que c'est faux. Je sens que c'est vrai. » La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17. Pas de manipulation dans la parole de Dieu. Elle touche parce qu'elle dit vrai, même si ça fait mal. Autre réaction possible. Pécheur, moi? Non, je suis capable de m'analyser et de juger ce que je suis. Je me regarde et je ne me trouve pas si moche que ça. La parole annoncée ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux chapitre 4, verset 2. L'individu s'est auto-manipulé. Il n'a même pas besoin des journalistes. Il le fait tout seul. Il a déjà cautérisé sa conscience. Pierre a dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas attendu que son cerveau mouline. Non, il a dit ce qu'il savait. Un autre exemple est positif. Dans Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 17. C'est celui-là, je crois. J'ai noté juste à la fin, si vous voulez, parce que je pensais qu'il fallait que j'en parle. Matthieu 13, 16 à 17. 16 et 17. Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et n'en ont pas vu, entendre ce que vous entendez et n'en ont pas entendu. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Dans Actes, au chapitre 16, au chapitre 26 et au verset 17. 26, verset 17. Au verset 17, l'apôtre Paul parle au roi Agrippa et il raconte ce que Dieu lui a dit. Il a dit, Dieu lui a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Jésus venait de parler à l'apôtre Paul qui était assommé par terre avec des écailles sur ses yeux. Hein, vous souvenez. Il lui dit cela à ce moment-là. Et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et au verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Vous voyez, le cerveau super à bain d'huile, comme on dirait, hein, un bon cerveau bien costaud et qui a bien appris, comme l'apôtre Paul, il aurait pu utiliser son cerveau au moment où Jésus s'impose à lui. Et dire, mais pourquoi tu me dis que tu es pour la liberté, et puis tu es en train de m'aveugler et tout, c'est quoi ça? Hein? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas fait fonctionner son cerveau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas résisté à la vision céleste. Il a entendu la parole de Dieu, qui venait vraiment de Dieu, hein, déjà direct, hein, et il l'a accepté. Vous savez que l'aventure du Lévite Corée et des Rubénites Dathan, Abiram et On va se terminer de manière terrible et tragique, non seulement pour eux, mais pour toute leur famille âgée de plus de 20 ans. Alors on commence à comprendre pourquoi les pauvres fils de Corée, les pauvres, qui n'avaient pas 20 ans, ont perdu toute leur famille, mais ils ne sont pas morts. Les fils de Corée ont pondu, on fait des psaumes, les fils de Corée, les psaumes des fils de Corée, hein, qui nous parlent souvent de la souffrance. Ils ont dû souffrir, hein, mépriser des autres, hein, ouais. Vos parents étaient désobéissants, enfin, vous imaginez tout ce qui a pu être dit sur ces pauvres enfants qui ont dû être adoptés par d'autres familles, j'imagine, hein, voilà. Ces enfants qui n'avaient pas 20 ans ont engendré plus tard toute une descendance très sensible à la souffrance, mais très sensible à la foi aussi. C'était des hommes de foi. On pourrait résumer les psaumes des fils de Corée ainsi. Seigneur, ton amour, ça crève les yeux. C'est évident que tu nous aimes. Même si on est dans la souffrance, tu es avec nous. Tu nous aimes. C'est évident, ça crève les yeux. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Pourquoi quelqu'un croira-t-il spontanément quelqu'un d'autre? Pourquoi? On n'est pas obligé de croire n'importe qui. Quand ce premier quelqu'un perçoit l'amour que l'autre a pour lui, quand il perçoit qu'il y a de la véritable sincérité dans son cœur, quand vous exprimez la parole de Dieu avec amour et sincérité, l'autre il le sent. Si un chrétien, une chrétienne parle avec une autre personne, pas forcément bienveillante, la première des choses que cette personne percevra, c'est l'authenticité de l'amour chez ce chrétien, chez cette chrétienne. Dans ses paroles, si nos paroles sont spirituelles, elles viennent de celui qui nous inspire de l'intérieur, et cela, ça transpire à l'extérieur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu qui a été plantée en nous, comme le dit Jacques, chapitre 1, verset 21, et qui ne retourne pas à lui sans effet, comme il est dit dans Ésaïe 55, 10 et 11. Je veux vous encourager à cela. La foi ne vient pas de ce qu'on comprend, mais vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La pseudo-science vient de ce que l'on comprend. Et ce que l'on comprend vient de notre petit cerveau. Franchement, est-ce que l'on peut lui faire entière confiance à ce petit cerveau? Oui, mais pas devant Dieu. Je terminerai par un verset qui résume la situation, une situation dramatique. Pour la situation de notre 21e siècle français. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 20, Ô Timothée, ô Timothée. Et certains commentateurs disent que Timothée il aimait le Seigneur. 2 Timothée est un peu plus pessimiste sur la situation de Timothée. On n'en sait rien. Espérons que notre frère Timothée, nous le retrouverons dans les cieux. Mais, enfin, on ne sait pas. Mais il est dit, dans la première à Timothée, au chapitre 6, verset 20, « Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés. » De quoi ? De la foi. Que la grâce soit avec vous. Nous allons prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, tu vois comment j'ai été éduqué, élevé dans un pays qui nous a donné plein de choses et pour lesquelles nous te remercions. Seigneur, je ne veux pas que mon petit cerveau prenne la place centrale et je veux que ce soit toi. Seigneur, je veux te remercier parce que je ne suis pas encore bien arrivé, je suis vraiment au début. Et Seigneur, je veux te remettre tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs ici présents et tous ceux qui sont ailleurs aussi, qui souffrent, qui sont dans la persécution. Seigneur, merci parce que tu veux nous faire comprendre qu'en effet, la foi vient de ce que l'on entend, ce qu'on entend vient de la parole et cette parole qui vient de Dieu. Permets, Seigneur, qu'il fasse son œuvre en nous. Et nous savons que, et tu nous l'as dit, tu es persuadé par l'apôtre Paul, que cette bonne œuvre, elle sera accomplie à la fin. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu veux nous exhorter, nous encourager à ne pas nous complaire en nous-mêmes, à ne pas mettre notre cerveau en premier. Seigneur, je sais bien que tu veux aussi que nous fonctionnons cérébralement de manière correcte, mais Seigneur, je te demande que pour chacun d'entre nous, nous puissions te mettre à la première place. Amen.